Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue à bord du cargo de Radio Caroline qui est amarré au Manhattan Cruise Terminal de New York. Et nous sommes aujourd'hui gratifiés de la présence et de la fréquentation d'un fantôme ô combien singulier, talentueux, excentrique, mais attachant et, comme l'on dit, bien trop tôt disparu. Il se disait extraterrestre pour créer la distance nécessaire à ses rêves de gloire. Engoncé dans un smoking triangulaire en plastique, visage blanc, joue creuse, yeux noircis, rouge à lèvres sombre et coiffure gominée en pointe, Klaus Nomi, puisqu'il s'agit de lui, n'aura été qu'une étoile filante dans le ciel du showbiz. C'est ce qu'on pourra lire dans la presse au lendemain de sa disparition en 1983. Klaus Nomi, un chanteur d'opéra rock, mais au sens littéral du terme, d'opéra et de rock, né en Allemagne en 1944, Allemagne où il vivra avant de débarquer à New York à l'âge de 28 ans en 1972. Découvert et lancé par David Bowie, Klaus Nomi saisira, tant par son look que par sa tessiture très étendue de basse ténor à falsetto et la façon dont il la glissera, cette voix, ainsi que ses extravagances référencées dans l'univers rock. Icône gay, il connaîtra une ascension fulgurante avant d'être fauché par le sida à l'âge de 39 ans en 1983, première victime célèbre de la terrible épidémie. Bien après sa disparition, Klaus Nomi marquera de nombreux artistes de la glam pop des années 90 et 2000, Lady Gaga ou Kylie Minogue notamment, mais également dans un style plus rock, Morrissey, ex-leader des Smiths, qui l'appréciait beaucoup. Klaus Nomi est né Klaus Sperber le 24 janvier 1944 en Bavière, en Allemagne donc, où il sera élevé par sa mère Bettina qui exerce de petits boulots. Quant à son père, c'est un soldat de la Wehrmacht avec qui Bettina avait eu une aventure lors d'une permission, mais décédé d'une maladie virale avant la naissance de son fils. Alors qu'il est enfant, Klaus et sa mère déménagent à Essen, nettement plus à l'ouest, au nord de Düsseldorf. Une enfance baignée par les airs d'opéra que diffuse la radio qui écoute Bettina. Et très vite, Klaus s'éprend de la calasse. La première fois que je l'ai entendu, je me suis dit « Mon Dieu, je veux chanter comme ça », se rappellera-t-il. Ce qui n'empêche pas le jeune garçon de se passionner aussi pour Elvis Presley, dont il achète les disques avec de l'argent volé à sa mère. Pour en revenir à Maria Callas, inspirée par la cantatrice, Klaus développera une tessiture vocale de 6 octaves et, au milieu des années 60, partira pour Berlin-Ouest afin d'y étudier à l'Université des Arts où il suivra une formation de baryton à défaut d'y trouver des cours de contre-ténor. Mais, comme il expliquera bien plus tard à feu notre ami Gilles Verland dans une interview diffusée dans Ligne Rock à la RTBF, l'étendue de sa voix, il la voulait toujours plus large.
What's your level in opera?
I started as a tenor, as a lyrical or buffo tenor, but that was not enough to me. I needed to get out of those limits.
Have you ever performed in proper opera?
No, I did a few small concerts, like early Mozart and Schumann and Schubert songs, song recital. But I didn't study too long, really.
Peu de réelles opportunités pour lui comme chanteur d'opéra sur une vraie scène à Berlin, ce qui le poussera donc à s'initier à la pâtisserie en apprentissage, tout en travaillant comme ouvreur au Deutsche Oper, l'opéra de Berlin, où il chante parfois pour ses collègues sur scène après le départ du public une fois le spectacle terminé, collègues qu'il surprend par son art de chanter du Purcell ou du Saint-Saëns. Toujours dans cette interview de Gilles Verland, le futur Klaus Nomi explique que c'est un ami qui approfondira sa connaissance du rock anglo-saxon, ce qui, in fine, l'incitera à partir à New York.
I was originally mostly listening to classical music and a friend of mine turned me on to rock and roll music and it was mostly English and American rock and roll. And that was the reason why I went to New York.
Comme le racontera le premier ami que Klaus Nomi se fera au cœur de Manhattan, Joey Arias, à Berlin, il se sentait comme dans une impasse. Il voulait venir à New York parce qu'il sentait que cela changerait sa vie. En 1972, Klaus Perber, qui ne s'appelle pas encore Nomi, débarque donc à New York pour s'installer dans un petit appartement de l'East Village sur St. Mark's Place. Dans un premier temps, il travaillera dans la cuisine du Serendipity 3, dans l'Upper East Side, un café connu pour ses desserts extravagants et où l'on croise de nombreuses célébrités. Dans les années 50 déjà, Marilyn Monroe, Andy Warhol et la First Lady Jacqueline Kennedy le fréquentaient. Mais bientôt, Klaus va lancer son propre commerce de pâtisserie qui fournira au restaurant des desserts préparés dans son propre appartement, dont une tarte au lime, au citron vert, devenue légendaire. Ce que confirme Joey Arias, qui se souvient que lorsqu'ils se sont rencontrés à New York en 1976, je le cite, « Klaus gagnait bien sa vie en fournissant ses délicieux gâteaux, biscuits et tartes à des clients prestigieux ». Arias, futur chanteur de cabaret et artiste-performeur, on le verra même en 2003 dans un spectacle du Cirque du Soleil, Arias est à l'époque l'un des responsables de la boutique Fiorucci qui vient de s'ouvrir sur la 59e rue Est et dont Klaus passera régulièrement la porte. Les deux hommes se sont liés d'amitié grâce à leur passion commune pour la musique, toutes les musiques du rock'n'roll originel à Billie Holiday. L'une des jeunes clientes de cette boutique, qui deviendra plus tard journaliste musicale et biographe de Yoko Ono, Madeleine Bocardo, se souvient de ce magasin et de Joe Arias à l'époque. C'était la boutique new-yorkaise branchée. Fiorucci n'était pas seulement un magasin, mais aussi un tout autre monde. Ils vendaient leur propre marque, mais également des vêtements de créateurs avant-gardistes, faits de cuir, de plastique, de caoutchouc, de vinyle et de couleurs fluo. On y trouvait les dernières parutions de tous les magazines de mode et l'on y entendait la musique la plus tendance, Kraftwerk, les B-52s, Blondie, Devo, Bowie. Ils organisaient d'ailleurs de nombreuses soirées dansantes au sein du magasin. Joey Arias m'habillait de vêtements fabuleux, poursuit la journaliste. Ses cheveux étaient d'une couleur fluorescente différente chaque semaine. Et Madeleine d'ajouter, plus tard, j'y verrai Klaus posé dans la vitrine de Fiorucci comme un mannequin pendant des heures, immobile, sans cligner des yeux, avant d'y donner un concert. Klaus, dit-elle encore, était un excellent mime et avec ses cheveux bleu noir hérissés, son visage peint en blanc, son rouge à lèvres noires, ses gants blancs, son smoking spatial en plastique brillant, ses bottes de lutin pointues et son juste corps en spandex noir, il était hallucinant, un croisement entre Mickey Mouse et l'homme de fer. Mais malgré cette apparence bizarre, ajoute Madeleine, c'était un garçon adorable et amoureux de la vie. Quand il m'embrassait sur la joue, il laissait toujours une trace de rouge à lèvres noires. Mais revenons donc à Klaus, qui veut faire de la musique, du chant, sa vie. Et pour qui les choses vont peu à peu se mettre en place. En 1977, le futur Klaus Nomi apparaît dans une version satirique de l'opéra Das Rheingold de Richard Wagner, donnée par le Ridiculous Theatre Company, où il tiendra le rôle d'une des filles du Rhin et, dans cette version, de l'oiseau des bois. Avant qu'en 1978, il ne monte sur la scène d'un club pour une soirée mémorable, celle du New Wave Vaudeville Show, que va mettre en scène Anne Magnusson, comme elle le raconte dans cet extrait du documentaire Nomi Song réalisé par Andrew Horn.
And welcome to the Irving Plaza Vaudeville Theater in Manhattan. And I know you've traveled far and wide, from California, Ohio, Indianapolis. And you're all here for a special reason. It's because you're marvelous and wonderful and interesting and creative. And welcome!
We put ads up on posters around town.
Anne Magnusson raconte « Nous avons placardé des affiches dans des clubs de downtown qui précisaient que nous recherchions des esclaves égyptiens, des hôtesses, des monstres robots, des geeks, des faux nazis, l'idée étant de faire quelque chose avec toutes ces personnes sur scène. »
One night, I was at Max's with my then boyfriend, Peter.
Une nuit, alors que nous quittions le Max Kansas City Club avec mon ami pour rentrer chez nous, il devait être 1h30 du matin, il neigeait et subitement nous avons vu, à côté d'un tas de neige accumulée et sale dans ce New York désert, ce personnage, Klaus, chantant un air d'opéra alors que de la fine neige tombait sur lui. On aurait dit qu'il venait d'un autre univers et je lui ai lancé « Toi, tu dois participer à notre show. »
And since I was thinking about talent for the vaudeville show, I said, you've got to be on our show.
Une soirée de cabaret qui s'annonce totalement barge et à laquelle Klaus accepte évidemment de participer. Mais il sait qu'il doit marquer les esprits, se réinventer en quelque sorte. Joey Arias raconte, il m'a dit, je ne peux pas y aller en m'appelant Klaus Sperber, c'est pas un nom de star. Alors, ils choisiront Nomi, anagramme d'Omni, son magazine de science-fiction préféré. Et puis, Nomi, ajoute Joey Arias, c'est un peu comme Nomi, tu me connais ? En clôture de ce New Wave Vaudeville Show, le désormais Klaus Nomi interprétera un air d'opéra tiré de Samson et Dalila, de Camille Saint-Saëns, vêtu d'un imperméable transparent, d'un pantalon moulant gris et brillant, le visage maquillé de blanc et les yeux ainsi que les lèvres de noir. Certains spectateurs mettront quelques secondes avant de comprendre que c'est bien ce personnage qui s'est avancé sur la scène avec des gestes robotiques qui chante, que c'est vraiment sa voix en direct qu'ils entendent. Anne Magnusson, qui a donc mis en scène la soirée, explique « Avec ce contraste entre sa voix cristalline provenant d'un siècle passé, sa sorte de combinaison spatiale et ses mouvements robotiques, à la fois élégants et énigmatiques, qui semblaient venir du futur, il était vraiment époustouflant. Il a laissé tous ces punk rockers sarcastiques sans voix, comme statufiés, avant qu'ils ne l'ovationnent. C'était un moment extraordinaire, magique même. » Joey Arias, de conclure, c'était surréaliste, étrange, magnifique et totalement downtown New York. Après ce New Wave Vaudeville Show, Nomi, qui s'y est fait remarquer, sera engagé pour se produire dans des clubs branchés de Manhattan comme le Mud ou le Max Kansas City. Pour ce faire, avec son désormais complice Christian Hoffman, l'un des protagonistes du New Wave Vaudeville Show, il formera un groupe de quelques musiciens. Quant aux chansons qui composeront son jeune répertoire, elles lui seront soufflées par Hoffman. Il s'agira de reprises à la mode Nomi, bien sûr totalement singulières et revisitées, de standards pop 60s comme ceux de Chubby Checker. Mais il reprendra aussi à sa façon Leslie Gore. Des reprises auxquelles s'ajouteront des compositions originales signées Hoffman, comme The Nomi Song, Total Eclipse, After the Fall et Simple Man. L'idée, c'est de faire en sorte que des chansons pop amènent vers l'opéra un public qui lui est a priori réfractaire. Et bientôt, les fils s'allongeront sur le trottoir du Max Kansas City Club pour voir et entendre ce freak chanter, par exemple, une reprise de Lou Christie's Lightning Strikes. L'original donne ceci. Quant à la version de Klaus Nomi au Max Kansas City, bah, cela donne ça.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Un soir de 1979, alors que Nomi et Arias se trouvent au Mud Club, ils y rencontrent David Bowie, qui avait déjà eu vent des prestations de Nomi. David proposera à Klaus de l'appeler, lui griffonnant son numéro de téléphone sur un bout de papier avec l'eyeliner d'un ami. Et quelques temps plus tard, Nomi et Arias seront embauchés par Bowie comme choristes pour une apparition qu'il doit faire en décembre en tant qu'invité musical de Saturday Night Live, le célèbre late show de NBC. Bowie était incroyable, cool, direct, super attachant, curieux de savoir qui nous étions, se souviendra Joey Arias. Il nous a dit que pour lui, il avait des idées de costumes pour chacune de ses trois chansons. Une tenue Bauhaus pour The Man Who Saw the World, un costume d'hôtesse de l'air chinoise avec un caniche rose pour TVC 15, et une troisième tenue inspirée de marionnettes pour Boys Keep Swinging. Il nous a donné quelques milliers de dollars pour acheter ce que nous allions porter et on a trouvé des robes Thierry Mugler dans une boutique pour seulement 100 dollars pièce. Quand la vendeuse a apporté ses tenues, Klaus lui en a arraché une des mains et s'est précipité dans la cabine d'essayage. C'était vraiment son moment. Au cours des trois chansons de David Bowie, Klaus Nomi et Joey Arias, le visage maquillé de blanc, porteront donc leur robe moulante Thierry Mugler, noire pour Nomi et rouge pour Arias, leurs cheveux assortis à ces couleurs. Quant à Bowie, lors de l'interprétation de The Man Who Sold the World, qui entame sa prestation, il portera un smoking en plastique anguleux et démesuré, très rigide, très proche en réalité de celui que se fera fabriquer Klaus Nomi pour ses spectacles et pour la pochette de son premier album. Autant de looks très provocateurs, pour l'époque à tout le moins, et sur l'une des trois grandes chaînes de télévision nationale.
Ladies and gentlemen, David Bowie.
Au cours de l'un des deux morceaux suivants qu'interprétera David Bowie, on verra Klaus Nomi, sur qui la caméra s'attarde désormais, se désarticuler aux côtés du faux caniche rose doté dans sa gueule d'un minuscule écran de télévision. David Bowie les avait prévenus, les gens vont flipper en voyant ça et vos carrières vont décoller. De fait, cette prestation, loin des scènes underground, mais au contraire dans un des programmes leaders de la télévision américaine, mettra en lumière Klaus Nomi, dont l'image sera bientôt cristallisée par son style androgyne noir et blanc avec nœud pape géant, une coiffure en M, et oui, et le visage blanc. Un homme sans maquillage est comme un gâteau sans glaçage, dira-t-il. Et c'est ainsi que Klaus Nomi deviendra vite une curiosité dont s'enticheront les émissions de télé et même les programmes de cuisine, de pâtisserie à tout le moins.
Okay, everybody ready for something sweet? I'm making something real sour. It's a lime tart. 1 1/4 cup graham cracker crumbs and 1/4 cup of melted butter. You mix it up, you know, and press them firm against the mold. Separate the white from the... This has to be whipped up till it's sort of... This is a French dark croissant, which is a hazelnut meringue. And this is a chocolate almond cake. It's very delicious.
En 1980, Klaus Nomi sera également engagé pour tenir l'un des rôles d'un long métrage 8 mm, The Long Island Four, l'histoire de quatre nazis qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, sont déterminés à détruire le mode de vie américain avant d'être rapidement corrompus par le vin, les femmes et la vie new-yorkaise. À Manhattan, ces nuits, Nomi les embrase en fréquentant les boîtes gays The Anvil et Mineshaft, connues pour leur backroom à l'intense activité sexuelle. Parmi ses aventures, parfois ramenées à la maison, l'artiste Jean-Michel Basquiat, que Joey Arias assure avoir croisé chez Klaus dans le plus simple appareil. Mais pour ce qui concerne la musique, les choses patinent. Aucune maison de disques américaine ne veut de lui. Klaus s'impatiente et en ressent de l'amertume, d'autant que même s'il enchaîne les shows de plus en plus professionnels dans les clubs, l'argent manque. Il ne gagne plus ce qu'il engrangeait avec son commerce de pâtisserie de luxe. Tout coûte cher, les costumes, le maquillage, et il doit bien sûr partager ses cachets avec les musiciens. Et puis, bien que très entouré, il est au fond de lui englué dans une solitude qui ne le rassure pas. Et puis un jour de 1980, celui qui est devenu son manager, Ron Johnson, reçoit un coup de fil de l'agent du groupe Police, qui est en train de produire un film musical composé d'extraits de concerts d'artistes de cette nouvelle génération post-punk et new wave comme Echo and the Bunnymen, Devo, John Jett, Orchestral Manoeuvre in the Dark, Gary Numan, XTC, etc. et aimerait que Klaus Nomi s'y trouve dans ce film. Le manager accepte, mais décide pour l'occasion de virer les musiciens qui avaient accompagné les débuts et l'éclosion de Klaus dans les clubs. Ils seront donc virés à leur grand dépit et tristesse. Le but du manager étant désormais d'assurer un show hyper pro, musicalement et visuellement, qui puisse aiguiser l'appétit d'un label en vue d'un album solo. D'autant que la distribution du film en question, Erg A Music War, sera précédée de la sortie d'un double album sur lequel se retrouveront tous ces artistes, dont Klaus Nomi. Pour ceux qui avaient suivi Klaus jusque-là, visuellement, Nomi est plus Nomi que jamais. Mais le reste, la musique, très pro, très rock, a perdu l'âme underground des débuts qui faisait la différence. Une chose est sûre, cette nouvelle version de Klaus Nomi est désormais prête pour The Big Showbiz. Peut-être pas encore pour les Américains, mais en tout cas pour l'Europe. C'est d'ailleurs la branche européenne de RCA qui produira son premier album. Un disque qui portera son nom, reprendra la plupart des reprises et des morceaux originaux qu'il avait interprétés dans les clubs, mais enregistrés cette fois avec des musiciens de studio. Sorti fin 1981, l'album Klaus Nomi verra son succès conforté, en France notamment, par celui incroyable et inespéré de Cold Song, interprétation surprenante autant que majestueuse d'un air de Purcell. En France, c'est dans l'écrin prisé du fameux palace que Klaus Nomi sera lancé, telle la star enfin devenue, mettant tout le monde à ses pieds, amateurs de rock, d'art lyrique, les gays, cela va sans dire, et au final, le grand public. Après quoi, la Grande-Bretagne le réclamera, et enfin, son Allemagne natale, qui l'accueille dans un show de variété. Klaus, toujours vêtu de son smoking démesuré en plastique rigide, une rigidité qui l'empêchera de s'asseoir dans le fauteuil qu'on lui propose.
Meine Damen und Herren, das war jetzt kein Trick oder sowas, oder das waren auch keine technischen Spielereien. Es war wirklich die Originalstimme von Klaus Nomi live und hier im Studio. Und ich darf ihn jetzt bei mir begrüßen, Klaus Nomi. Klaus, darf ich dir das gleich geben? Gut geht's, bitteschön. Jetzt bin ich auch so einer von den Talkmastern mit den richtigen Talkstühlen.
Vielen Dank.
Oh, der Bürzel hindert. Darf ich vielleicht?
Ich habe ein Problem.
So.
De passage en Belgique, Klaus Nomi est filmé pour l'émission Ligne Rock de la RTBF en 1982, comme on l'a déjà signalé et entendu. Klaus, ici, sobrement coiffé d'un chapeau feutre et vêtu d'un large trench beige. Gilles Verlan, entamant son interview par cette question.
Klaus Nomi, who are you? Are you a mutant or a CIA agent?
I'm just a regular person, I suppose, and I'm an artist.
Qui êtes-vous? Un mutant ou un agent de la CIA? Nomi répondant modestement, je suis quelqu'un de normal, je suppose, et je suis un artiste. Quant à son style musical, Gilles pointe le fait que personne n'arrive à le caractériser, à lui coller une étiquette.
Critics and journalists have been very surprised by your first LP, and most of them couldn't put a label to it. How would you describe it yourself?
Well, I wouldn't give it a label. It's maybe the only label is my own label. It's Nomi style.
Je ne relève pas d'une étiquette, sinon la mienne, le style Nomi, conclut Klaus, lâchant à l'objectif de la caméra un petit sourire quasi enfantin. En 1982 sortira le deuxième album de Klaus Nomi, A Simple Man, toujours destiné au marché européen et japonais et seulement disponible aux États-Unis en import. Musicalement, on est encore plus loin de l'univers fantasmagorique de celui qui émergea quelques années plus tôt au creux du downtown Manhattan. À la même époque, fin 1982, Klaus Nomi retournera à New York après ses longues tournées promo en Europe, mais il y arrive maigre et épuisé. Car entre-temps, il a contracté cette maladie qu'on appellera SIDA, un mal encore mystérieux qui le gagne et ne cesse de le diminuer. Durant les derniers mois de sa vie, Klaus Nomi reviendra à l'opéra, ses premières amours, optant pour une tenue baroque avec un col montant dissimulant les poussées de sarcome de Kaposi, cette tache violacée et brunâtre, l'un de ses symptômes visibles du sida. Mais le vide se fait autour de lui. Même ses amis n'osent plus l'approcher de peur d'être contaminés, comme le musicien de son premier groupe, jadis congédié, on s'en souvient, mais qui le retrouve par hasard lors d'un dîner. Je me suis approché, j'allais lui faire un hug, comme on le faisait toujours, mais j'ai eu peur, je l'avoue. Il a compris et il m'a dit « C'est pas grave, t'inquiète pas avec ça. »
So after Klaus came back from Europe, and he was sick, we realized that this was terminal, that he wasn't going to recover from this, and it really was all over. And I remember seeing him at a dinner. And usually I'd go over and give Klaus a hug and give him a European kiss on each cheek. And I was just afraid to. I didn't know if this was contagious or what would happen, and I sort of came up to him and I hesitated. And he just put his hand on me and went, "It's all right, don't worry about it." Which really made me start to tear up. And I think that was the last time I saw him.
Pour Klaus, la fête est définitivement terminée. Il ne s'agit plus désormais que de survie. Klaus Nomi décédera le 6 août 1983 au Sloan Kettering Hospital Center de New York des suites de complications liées au sida. Il sera l'une des premières personnalités du monde artistique à mourir de cette maladie. Ses cendres seront dispersées dans ce Manhattan qu'il avait vu éclore. Quant au premier et indéfectible ami qu'il s'y était fait, Joey Arias, il sera son exécuteur testamentaire. Sur Nomi Song, extrait de son premier album, Klaus se demandait « Will they know me? Know me? Know me now? Me connaîtront-ils? Me connaîtront-ils? Me connaîtront-ils maintenant ?» Les décennies qui succéderont à sa disparition répondront positivement. Klaus Nomi devenant culte, son influence était même célébrée par des personnalités populaires, voire via TikTok, c'est dire, où des extraits de ses performances seront visionnés des millions de fois, les générations Z et Alpha finissant même par découvrir cet artiste inclassable et fascinant. Notre voyage à travers la vie, le parcours de Klaus Nomi se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager, à l'étoiler. Belle nuit ou bonne journée. Radio
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.